Bonjour à tous, bienvenue donc à Montpellier. Merci d'avoir fait le déplacement pour ceux qui viennent de loin. C'est chouette de voir autant de monde à une réunion de l'AFC. Je crois que c'est une des premières fois qu'on est aussi nombreux. Donc c'est super. Moi je suis Alexis, je suis cueilleur de plantes sauvages dans le massif central. Et donc je vais vous introduire un petit peu la journée, comment ça va se passer. Ce que je vous disais, c'était bienvenue. Donc, on est autant des cueilleurs que des professionnels de la filière, des entreprises utilisatrices. On a le ministère qui est présent, donc le ministère de la Transition écologique qui nous soutient depuis pas mal d'années maintenant. On a l'OFB qui nous soutient aussi. Sur cette manifestation depuis un peu moins longtemps. Ça fait quoi? Ça fait 2-3 ans. 2-3 ans qu'ils sont avec nous, mais voilà. On a le ministère de l'Agriculture qui nous soutient aussi pour cette journée. Donc voilà, sans tous ces partenaires et les cueilleurs et les entreprises, l'AFC n'existerait pas. C'est chouette de tous vous accueillir ici. L'AFC, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent peu, donc c'est l'association française des cueilleurs, qui a été montée par des cueilleurs de plantes. Il y a aussi, au sein de l'AFC, il y a aussi des scientifiques, des entreprises utilisatrices. Donc voilà, on a des gestionnaires. On a plusieurs collèges de partenaires, d'associés, d'adhérents. Merci beaucoup. Voilà. Aujourd'hui, on vous propose une journée technique. C'est la deuxième journée technique qu'on organise. On a déjà organisé une journée technique sur l'arnica. Et aujourd'hui, on va plus parler du thym. Pourquoi est-ce qu'on fait des journées techniques? C'est principalement pour qu'on puisse... Alors, pour que les cueilleurs et les utilisateurs de plantes sauvages puissent s'interroger sur les pratiques vis-à-vis d'une plante, en particulier, notamment le thym. Et pourquoi le thym? Parce que ça part d'un constat qu'on a posé il y a quelques temps quand on a fait le livret technique des plantes sur le thym. C'est principalement parce que le thym, aujourd'hui... Depuis les années 70, il y a eu pas mal de cueillettes un peu par des gens qui n'étaient pas forcément formés à la cueillette et qui ont dégradé un petit peu l'image du cueilleur en France. Et aujourd'hui, comme on se professionnalise un petit peu plus, on a plus de difficultés à avoir accès à des zones de cueillette, notamment dans les communes où il y avait beaucoup de cueilleurs, à la sauvette ou voilà, et du coup ça a dégradé pas mal l'image du cueilleur, donc aujourd'hui on a plus difficilement accès à des zones de thym, à des zones de ressources en thym qui sont intéressantes pour la cueillette commerciale. On a vu aussi pas mal de zones en dépérissement depuis quelques années. Quand on va sur les sites de récolte, on voit de plus en plus de thym sec sur pied, de plus en plus de zones vraiment qui sont affectées par le changement climatique, et on se pose la question de savoir si ça vaut encore le coup de retourner sur certains sites. On se déplace de plus en plus, voilà, donc c'était... On va dresser le constat un petit peu de l'état actuel du thym, mais voilà, c'est l'objet de cette journée technique sur le thym, pour qu'on arrive à mieux comprendre les dynamiques du thym et qu'on soit à même de faire les bons choix, à la fois de gestion de sites, du choix des sites et d'une cueillette plus responsable. Voilà, grosso modo, de quoi on va parler aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, merci à tous et bienvenue à cette journée sur le thym.
Bonjour à tous. Pour cette première présentation, je vais vous, ça va servir un peu d'introduction à la fois à l'écologie, la biologie du thym et puis à l'historique des cueillettes de thym. C'est un bref historique, enfin une ébauche de travail plutôt pour donner envie de faire plus de recherches à ce sujet. Donc le thym, c'est une lamiacée, donc de la famille des lamiacées, comme la menthe, le romarin, la lavande, la sarriette et pas mal d'autres plantes d'huile essentielle, à huile essentielle de la zone méditerranéenne. Et donc là, j'ai mis la carte de répartition donc des données du GBIF, où on voit donc, que le thym il est essentiellement distribué donc, dans la partie ouest méditerranéenne, donc pas trop en Italie et au sud de la Méditerranée. C'est, du coup, il y a d'autres espèces de thym hein, qui sont dans les autres zones. Nous, on se concentre sur donc, le Thymus vulgaris, hein, le thym commun. Et là, on voit des petits points un peu partout. Là, c'est les introductions par la culture. Donc ce thym, on l'appelle, je ne l'ai pas noté ici, mais on l'appelle souvent farigoule, frigoule, barigoule, dans une bonne partie du sud de la France. C'est une plante qui a énormément d'usages. On y reviendra un petit peu après. Donc c'est un sous-arbrisseau, hein, vivace, avec des tiges ligneuses. Là, c'est la planche que j'ai mise à gauche. Là, c'est un individu assez jeune, mais donc ça peut devenir assez gros et assez vieux. Il a des feuilles opposées qui sont très velues, quoi, avec donc une adaptation à la sécheresse qui est assez marquée. Et donc là, on voit un petit peu les feuilles enroulées avec les poils. Ce que je voulais préciser, c'est corriger un petit peu cette planche botanique qui est à gauche, parce qu'en réalité, ce serait plutôt ça. Souvent, sur les planches botaniques, on n'a pas la place de montrer les racines. Mais voilà, là, on a une plante qui fait dans les 40 cm au-dessus du sol. Donc, en sous-sol, on sera plutôt autour de 60 cm, 1 mètre. Et puis, pour les individus âgés, ça peut aller jusqu'à 5-6 mètres au moins. Enfin, on sait pas toujours très bien. Et le petit détail que j'ai mis au microscope électronique, là, donc c'est les poils justement qu'on voit en surface. Et puis les petits ronds, c'est les glandes, donc des poils qui contiennent les huiles essentielles. Donc les huiles essentielles, je vais parler brièvement parce que John va en faire une présentation assez extensive tout à l'heure. Donc on a plusieurs chémotypes, comme vous le savez sûrement, de thym, avec les deux du haut là, qui sont les types phénoliques, et puis les autres en bas qui sont des types non phénoliques. John expliquera mieux que moi les différences entre ces différents chémotypes. En tout cas, ces huiles essentielles sont une des particularités du thym qui sont et elles sont donc importantes à la fois pour son utilisation humaine, mais aussi dans les écosystèmes, parce que on sait que ces huiles elles ont notamment un rôle écologique quand elles sont dans la litière, donc qu'elles se décomposent dans le sol, elles empêchent la germination des autres plantes, y compris aussi du thym lui-même. Et c'est ça qui permet au thym de former des fois des thymées, donc des populations assez denses dans les milieux, parce qu'elle élimine, c'est un peu un effet désherbant de ces huiles essentielles. Alors, comme autre particularité biologique, donc sa reproduction, c'est une reproduction essentiellement sexuée, elle a pas beaucoup de... elle peut marcoter, faire de la reproduction végétative, mais c'est essentiellement de la reproduction par graines qui tombent au sol, hein, simplement. Et il y a potentiellement une redistribution des graines par les fourmis, donc de la myrmécocorie. Et donc au niveau de sa pollinisation, donc essentiellement par les insectes, par les hyménoptères essentiellement. Et on a une particularité du thym, qui est sa distribution des formes sexuelles des fleurs, où on a à la fois, donc, comme on voit à gauche, des individus qui sont uniquement femelles, qui ont des fleurs qui ont seulement un pistil, et puis, comme on voit à droite, des fleurs qui sont hermaphrodites. Cette répartition avec ces deux possibilités-là, c'est ce qu'on appelle de la gynodioésie, et donc qui est assez particulière, et puis qui peut varier selon les environnements. Donc, voilà. Et donc, dans son écologie, c'est une plante qui est assez présente donc dans une diversité de milieux méditerranéens. On estime à peu près 20% des types de végétation méditerranéenne où le thym est présent. Et puis, donc, surtout sur des sols calcaires ou marneux, dans des contextes qui vont de la pelouse prairie, comme à gauche, jusque donc, dans des garrigues, des milieux plus ou moins caillouteux. Et puis, donc, essentiellement des milieux ouverts et ensoleillés, donc, qui sont souvent maintenus par le pastoralisme, mais également, même si c'est un peu moins son habitat, des zones de clairières, de sous-bois presque, donc, qui sont un peu des zones refuges où il y a des populations qui sont souvent un peu plus clairsemées. Donc, au niveau de son usage, bah, c'est une espèce qui peut avoir beaucoup, qui a beaucoup d'utilisation. Hein. Ça, c'est extrait du livret technique de l'AFC qu'on a publié donc en 2022. Ce qu'il faut retenir, je ne vais pas détailler tout ça, mais c'est qu'il y a deux façons de le cueillir. Donc, soit en feuille avant sa floraison, donc pendant tout l'hiver, en gros, d'octobre à mars, selon les zones. Et en sommité fleurie, du coup, c'est une la partie qui va être plus utilisée donc en tisane, en aromathérapie donc pour les huiles essentielles, et aussi en teinture mère, en eau florale, en homéopathie, et pour pas mal de tisanes aussi. Donc, c'est plutôt ce stade-là qui est préconisé, donc plutôt en mai-juin. Donc pour toutes ces utilisations, la plante, le thym, il est soit cultivé, soit cueilli. Et du coup, quelle est l'histoire de cette utilisation ? Depuis quand ? Comment est-elle cueillie, etc. Bon, le depuis quand, ça va rester un peu sans réponse parce que, comme d'habitude, on n'a pas beaucoup d'archives, mais on sait qu'elle est déjà bien, on a un usage qui est déjà bien attesté dans l'Antiquité. Merci à Laurence Chabert hein, pour le travail. je ne sais pas où est Laurence, mais oui, merci. Qui avait fait un travail historique déjà sur ce sujet. Le mot thym vient du grec thuon, qui veut dire donc faire de la brûler comme encens en vue d'un sacrifice. C'était une plante qui était déjà très utilisée dans l'Antiquité, même si en Grèce, du coup, c'était pas le Thymus vulgaris. C'est d'autres espèces qu'il y a dans l'est méditerranéen. On sait que dans l'Antiquité, donc, elle était déjà utilisée, donc plutôt en Italie, en même temps que d'autres espèces de thym. Et alors, je ne vais pas parler du Moyen-Âge parce qu'elle est un peu moins utilisée au Moyen-Âge, mais quand même, elle est un usage qui est attesté. Et un peu plus près de nous, du coup, dans les cueillettes familiales, toutes les enquêtes d'ethnobotanique qui ont été faites dans le sud de la France mentionnent constamment donc, la farigoule qui est utilisée donc, à la fois comme plante alimentaire, comme condiment, et puis comme... comme plante médicinale donc de première importance. Je ne vais pas détailler tous ces usages médicinaux. Je le ferai beaucoup moins bien que d'autres professionnels qui sont ici. Mais ce qui nous intéresse aussi particulièrement, donc c'est les cueillettes commerciales. À partir de quand est-ce qu'elles ont commencé ce qu'on voit, c'est qu'on a des témoignages de cueillettes commerciales. Bon, il y a sûrement eu du commerce dès l'Antiquité, mais de cueillettes d'importance dès le 18e siècle. À la fois donc pour des herboristeries, en bouquet pour la cuisine, mais le gros usage c'est pour la parfumerie. Donc c'est l'huile essentielle qui était utilisée. Ça a commencé dans les archives, on trouve à partir du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, pour Montpellier où on avait les maîtres gantiers qui ont commencé à parfumer les gants de cuir avec de l'huile essentielle de thym. Et puis, Montpellier a perdu de l'influence petit à petit, jusqu'au XVIIIe siècle. Ça s'est arrêté au XVIIIe siècle. Et puis, Grasse a repris un peu le flambeau et s'est développé énormément. À partir du XVIIIe siècle, l'apogée de Grasse a été au XIXe siècle. Et du coup, j'ai trouvé quelques petites citations à vous partager là, sur cette influence de la parfumerie pour les cueillettes de lavande et de romarin. De lavande, romarin, sarriette un peu moins, mais donc lavande, romarin, thym essentiellement. Et donc, cette petite citation donc, de 1884, les distillateurs passent des contrats avec les communes de leur voisinage et arrivent de cette manière à étendre leur exploitation sur une grande partie de la contrée. Généralement, ce sont les campagnards eux-mêmes qui se chargent de faire les distillations sur lieu et place dans des appareils de construction primitive et ils vont ensuite remettre à Grasse les produits de leur distillation. C'est là un usage qui dure depuis des siècles. Donc, ces appareils de construction primitifs, ce sont des alambics, un peu comme on voit ici, là, C'est une photo de probablement du début du 20e. C'était la distillation de la lavande, mais donc on faisait lavande et thym avec ça. Donc des appareils qui sont assez légers et qu'on peut monter dans la montagne et redescendre uniquement avec les huiles essentielles, ce qu'on appelle un alambic à feu nu mobile. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a à la fois des distillateurs qui viennent de Grasse ou d'autres endroits, et puis alors ils parlent les campagnards eux-mêmes. On ne sait pas très bien, c'est pas tout le monde qui faisait sa distillation, hein, tout le monde n'avait pas un alambic. Et on a une autre citation là qui confirme un petit peu cette importance des distillateurs mobiles. On sait que chaque année, quand le moment de la cueillette de ces fleurs est arrivé, une véritable petite armée de distillateurs, opérant pour leur propre compte ou envoyés par nos grandes maisons de parfumerie, part pour les Alpes et va jusque dans les montagnes du Piémont, fabriquer ces essences que Grasse envoie ensuite par milliers de kilos dans toutes les parties du monde. Donc on voit qu'on a probablement, c'est assez approximatif hein, ce schéma, un schéma d'approvisionnement donc de Grasse. On a probablement des distillateurs donc employés ou indépendants, des habitants un peu spécialisés dans la distillation qui font eux-mêmes leur huile, probablement un système de collectage ou d'intermédiaire à qui c'est revendu. On a un petit peu des données d'archives là-dessus. Et puis ensuite, c'est envoyé à Grasse et ensuite exporté sous la forme de parfum ou brut. Et du coup, c'est une cueillette qui est pratiquée par un peu tout le monde, hein, par les femmes, les enfants, les vieillards. On a pas mal de mentions de ça. Et du coup, la question, c'est un peu quelle quantité était cueillie à ce moment-là. Et il y a pas mal de témoignages qui concordent à dire que beaucoup. Et j'en ai choisi un. Donc, Grasse expédie tous les ans 80 à 100 000 kilos d'huile essentielle de lavande, 40 000 kilos d'essence de thym, un peu moins d'essence d'aspic et autant d'essence de romarin. Donc, Grasse produit des essences de labier pour couvrir les besoins du monde entier. Donc, si on fait les calculs en termes de quantité de thym frais en équivalent, ça donne à peu près 8000 tonnes de thym frais cueillies chaque année dans les montagnes. On est assez loin de ce qui est cueilli aujourd'hui. Pour donner un ordre d'idée, on en reparlera tout à l'heure, mais on serait plutôt autour d'une cinquantaine de tonnes qui sont cueillies actuellement. Donc, qu'est-ce qui explique ça ? C'est que les milieux pastoraux étaient beaucoup plus... plus étendue qu'aujourd'hui, et puis on était avant la déprise agricole, donc il y avait des bergers, des habitants qui étaient dans toute la montagne et qui étaient capables de cueillir un peu tout le temps. Et donc du thym, il y en avait sûrement beaucoup plus qu'aujourd'hui, aussi en termes de ressources. Et la lavande également. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que de coupler ça avec d'autres sources pour savoir où c'était cueilli. Et donc, on a pas mal d'archives au 19e, au 20e siècle, sous le terme des menus produits. Il y a un peu un enregistrement qui est fait de toutes ces conventions, notamment que les communes font avec les cueilleurs. Sous deux systèmes, le système des adjudications. Donc en gros, une vente aux enchères qui est faite par la mairie du thym de la commune. On sait que c'est quand même, on voit que c'est quand même quelque chose qui est assez rentable pour les communes, enfin qui est non négligeable en termes de contribution aux finances des communes. Les communes sont souvent assez intéressées par ces contrats-là. Et oui, aussi donc des contrats, des concessions qui sont faites, on dit de gré à gré, et donc dont on trouve pas mal de traces. Dans les archives aujourd'hui départementales, c'est les archives communales qui sont maintenant aux archives départementales. Et souvent, il y a une couche supplémentaire qui vient se rajouter, des autorisations des autorisations par les eaux et forêts lorsque les terrains atteints sont soumis au régime forestier. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a des recommandations parfois c'est l'ONF de l'époque, en gros, les eaux et forêts, là. J'ai mis deux petits documents là comme exemple. Il y en a du 19e siècle aussi, mais c'est écrit à la main. Je vous ai épargné l'écriture un peu illisible parfois. Et on voit que donc, les eaux et forêts, là, c'est, à gauche, là, c'est une lettre des eaux et forêts sur une concession de thym qui est faite par une commune à un cueilleur privé. Et donc l'ONF commente à gauche dans la marge, il pourrait être fort intéressant de les soumettre à une sage et prudente gestion. On voit que c'est un peu l'ancêtre de la gestion des ressources végétales. Et donc c'est sur la commune des Angles, là, et dans le Gard, oui. Et donc ça, c'est en 1925. Et ce qu'on voit, c'est qu'on trouve souvent les indemnités forfaitaires qui sont versées par les cueilleurs, mais pas de volume. Il n'y a pas de volume maximum qui est noté. Par contre, un peu plus tard, là, les eaux et forêts mettent en place un système où on a plus le volume qui est noté. On voit par exemple à droite, donc en 1953, donc les cueillettes continuent quand même au milieu du XXe siècle. On a noté une autorisation pour 200 kg de thym, 200 kg de romarin sur le massif du Luberon, donc dans la commune de Mérindol. Et si on fait la somme de toutes ces fiches là, qui étaient dans le même cahier, on a sur la même année à peu près 1700 kg de thym cueillis sur la commune, avec 5 concessionnaires. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ce travail qui est quand même assez important là, des eaux et forêts, et puis des eaux et forêts essentiellement, pour collecter toutes ces informations, ça permet d'avoir des estimations sur l'ensemble du département, enfin même au niveau national. Ici, dans le Vaucluse, on a en 1882 l'ONF qui arrive à faire la somme des produits présumés en kilogrammes, là, c'est ce qui est marqué en haut, de buis, lavande, kermesse, feuilles mortes, bois mort, gland et autres arbustes, dont le thym, du coup. Donc c'est un peu dommage parce qu'on n'a pas le thym qui est isolé. Mais ce qu'on voit, c'est que du coup, sur l'ensemble du département, on a bien 660 tonnes de lavande et 830 tonnes d'autres arbustes, donc thym, romarin, essentiellement. Et du coup, c'est assez cohérent avec ce qu'on avait tout à l'heure comme chiffre qui était donné pour les cueillettes pour grasse. Et puis, à partir de la fin du XXe siècle, là, on a vraiment les cueillettes qui se tassent un peu, là, qui diminuent. Et puis, la culture du thym qui prend de plus en plus d'ampleur. Les années 70, c'est vraiment le début des cultures, donc initiées plutôt par des cultivateurs individuels. Et puis, dans les années 80, il y a la création de pas mal d'instituts. Donc, Ludivine peut-être en parlera cet après-midi. Avec la création du CNPMAI, des instituts techniques comme l'ITEPMAI, le CRIEPAM, le CEPARM, qui vont accélérer la mise en culture, faire des prospections, de la sélection, qui vont développer des variétés, des clones, donc chémotypés, etc. Et donc voilà, ça va permettre le remplacement d'une grande partie des cueillettes par de la culture. Puis il ne faut pas oublier quand même la création des parfums synthétiques, etc., a quand même beaucoup diminué la demande qu'il y avait au niveau mondial pour ces essences de plantes. Donc en conclusion, ce travail d'archives, là, ça serait un travail qui serait à prolonger, hein, qui permettrait, en le répartissant par région, enfin, en faisant un travail équivalent dans différents départements, de voir un peu de sectoriser pour connaître un petit peu mieux les dynamiques locales de ces cueillettes. À la fois donc dans les archives départementales et communales, là, comme vous voyez, qui permettraient d'avoir un historique assez fin, et puis géographiquement assez fin, et puis dans les archives industrielles des parfumeries, donc c'est des fonds qui sont assez importants. Je pense que ça prendrait pas mal de temps d'aller fouiller dedans, mais là, ça permettrait peut-être d'avoir un petit peu l'évolution diachronique, enfin temporelle, pour connaître donc l'évolution de ces dynamiques de cueillette. Voilà, merci pour votre attention, et je reste à votre disposition si vous avez des questions.